Je lis un excellent livre que m'a prêté Philippe ou Virginia, je pense que c'est un portugais qui l'a écrit. Il s'appelle La Formule de Dieu. Si vous êtes curieux, vous pouvez le lire. C'est un roman, mais très intéressant. Et à un moment, il y a un des personnages dans le roman qui... Alors, c'est un peu un survol des religions, hein, puis c'est un bouddhiste qui explique à un gars qui est, pour le moment, assez incroyable, agnostique, et puis qui dit, oh, ben, tu vois, chez nous, le système, c'est pas compliqué, hein, tu fais des bonnes œuvres, tu es bien, tu es gentil, tu fais ci, tu fais ça, et puis, ben, si tu en fais assez, tu te réincarneras dans un bon personnage, sinon, ben, tu redescends l'échelle. Et puis là, tu dis, ah, ben, c'est comme dans le christianisme. Et puis il dit ceci, je vous cite, hein, c'est un peu comme le christianisme, non ? Observa Thomas. Plus nous sommes bons ici-bas, plus nous cumulons de bons points dans le ciel, et plus grandes sont nos chances de gagner une place au paradis. C'est exactement ça, s'exclama l'autre. Le grand thème de toutes les religions se réduit au fond à une somme de bons points. Ça m'a interpellé parce que. Vous savez, c'est un sujet que j'ai souvent abordé, mais auquel je reviens souvent. Le plus grand ennemi de la vérité, c'est pas l'erreur, c'est la contrefaçon. Jamais eu de soucis, c'est pas compliqué de discuter avec quelqu'un qui est incroyant, ou athée, ou agnostique, ou quoi que ce soit. Voilà, ses positions sont claires, on peut en parler, s'il est intelligent, c'est super. Ce qui est dramatique, c'est quand on appelle christianisme une chose qui ne l'est pas. Et c'est malheureusement ce qui se passe beaucoup. Si on regarde de façon historique, c'est dramatique. Hein. Quand des fois on voit des sociologues qui font le bilan du christianisme, puis on se dit, mais ce qu'ils disent, c'est vrai. C'est faux parce que c'est pas le christianisme, mais c'est vrai. Hein. C'est la cause de plein de guerres, c'est la cause de divisions, c'est à l'origine de plein de persécutions. Dès qu'il y avait un groupe qui pouvait prendre le pouvoir, ils persécutaient les autres. Mais dès que les autres arrivaient à s'échapper et à être libres, ils persécutaient à leur tour les autres. Et puis, c'est une horreur. Et puis, ça se bat pour contrôler la politique et pour mettre de l'argent dans ses poches et pour gouverner le monde. Et pour... Mais ça s'appelle christianisme, entre guillemets. Alors, on sait que c'est pas ça. Et puis, malheureusement, on retrouve ça de façon beaucoup plus modérée, mieux cachée encore, mieux contrefait. Vous savez, les contrefaçons, il y a celles où c'est gros, quoi. Hein. Il y a marqué Rolex dessus, mais vous voyez que ça vient d'un paquet Bonux, quoi. Il y a encore le plastique qui dépasse, quoi. Mais il y a des contrefaçons qui sont beaucoup plus subtiles, et plus elles sont bonnes, entre guillemets, plus elles sont dangereuses, forcément. Hein. Parce que elles ressemblent, elles ont l'apparence de, mais ça n'est pas. Et je trouvais que c'était intéressant pour nous, en tant que croyants, dans cette période de Noël, de réfléchir à qu'est-ce que c'est pour nous, justement. Ça paraît simple, hein, on revient au premier niveau d'école enfantine, mais c'est quand même l'essentiel. Comment on définit notre foi? Qu'est-ce que c'est le christianisme? Et si j'avais donné un titre à mon message ce matin, j'aurais aimé l'appeler « La grande imposture hein, ». Simplement. Non, c'est pas le grand divorce, mais la grande imposture. Ouais, parce que je trouve que c'est tellement facile, justement, pour les chrétiens évangéliques de condamner ce Noël commercial. Hein. Oh, ce Père Noël avait des enfants, puis on sait bien, c'est Coca-Cola qui a inventé le personnel en rouge, le Père Noël en rouge, et puis l'arbre de Noël, ça vient de ci, de ça. C'est vrai, ça ne me traumatise pas du tout, j'ai aucun problème avec ça. C'est dans la logique du fonctionnement de ce monde, quoi. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'on a d'autre à proposer? Parce que si on est juste pour dire c'est pas bien, c'est commercial, d'accord, mais c'est quoi? Ah ben, c'est la paix dans le monde, c'est non, ça c'est pour l'élection de Miss Monde, hein, c'est encore autre chose, hein, la paix dans le monde et que tout le monde y soit beau et gentil, quoi. Ouais. Commencer par se faire greffer un cerveau, puis après on verra. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre à proposer? Hein, je ne parlais pas pour les Miss Monde, hein, je parlais pour nous. Respect quand même. D'accord. Et pour ça, j'aimerais lire un passage magnifique, connu, mais qui a encore beaucoup à nous dire. Jean 1, à partir du premier verset. Je lis dans la traduction du Semeur. Jean 1:1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée, ne l'ont pas reçue. Un homme parut envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Ce texte est assez extraordinaire, parce que justement, je trouve qu'il y a un résumé, un concentré, c'est de l'essence. Hein. Des fois, il y a beaucoup de choses, et puis il faut, au travers des histoires, sortir le jus. Là, c'est vraiment très très concentré déjà. On a besoin d'ailleurs de le diluer, c'est trop pur. On a du mal. Hein. Au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. En lisant ce roman qui est fait à la fois par un journaliste et un physicien, qui explique comment maintenant quand même à peu près tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a un début à notre fin. Il y a un point de début et il y aura forcément un point de fin. Et celui qui est à l'origine du monde dans lequel on vit et qui avait laissé dedans sa trace, son empreinte partout, suffisamment pour qu'on puisse le reconnaître, est venu sur terre, mais on ne l'a pas reconnu. On n'a pas reconnu sa main. On n'a pas reconnu sa touche. Et c'est tragique parce qu'on aurait pu, et on aurait dû bien sûr. Pour tous ceux qui sont familiers avec un domaine particulier, que ce soit la musique, la peinture, l'écriture, ce genre de choses, hein, vous savez, quand vous aimez un musicien que vous connaissez, vous l'avez écouté toute votre vie, ou vous aimez un peintre, vous avez étudié tout ce qu'il a peint, ou un écrivain, si on vous passe un morceau ou un tableau ou un livre de cette personne-là, sans vous dire qui c'est, au bout de 3 pages, vous savez qu'il a écrit. Après 2 minutes devant le tableau, vous savez qui l'a peint. Après les 3 premières mesures, vous savez qui... Pourtant, c'est un nouveau morceau, hein. C'est une nouvelle œuvre, c'est un nouveau livre. Mais vous le savez, on ne peut même pas expliquer vraiment pourquoi, mais on ne se trompe pas en général quand on est dans ce domaine-là. Il y a quelque chose qui fait que la personne qui crée, même si elle se renouvelle, même si elle est très créative, elle laisse son empreinte. Celui qui a créé cet univers a laissé son empreinte partout, partout, à tous les niveaux. Dans ce qu'on appelle, nous, la création, dans la nature, elle y est, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand, en nous, déjà dans notre fonctionnement physique, dans notre conscience. Il a laissé des traces partout pour qu'on le reconnaisse. Pas pour que ce soit évident, indiscutable, écrasant, mais suffisamment pour que tous ceux qui veulent puissent le reconnaître. Et cette phrase terrible, il est venu et ils ne l'ont pas reconnu. Et ça ne parle pas juste du peuple juif qui ne l'a pas reconnu. Hein. Alors eux, ils sont encore moins excusables parce qu'ils avaient toute une symbolique qui était tellement forte pour les préparer à ça. Ça faisait 4000 ans d'histoire où tout était prévu pour qu'ils reconnaissent l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde avec la Pâque, avec toute cette histoire-là. Mais tous les êtres humains auraient dû le reconnaître. Et là, il y a une explication. Pourquoi on ne l'a pas reconnu? parce qu'on ne voulait pas le reconnaître. Quand on était au stand de Noël, au marché de Noël la semaine dernière à Montier, on était là avec nos marrons, il y avait Marc qui faisait un bruit incroyable en tapant sur la marmite, là. « Chaud les marrons hein !» Je disais Marc, quand même discrètement, un peu, s'il te plaît. Hein. J'essayais de rester discret, quoi, et puis il faisait du bruit. Et puis, plusieurs fois, j'ai vu des gens qui arrivaient dans l'allée, parce que moi, je faisais rien, hein, je regardais juste, comme d'habitude. Et puis, j'ai vu des gens qui arrivaient, que je connaissais, que je savais qu'ils me connaissaient, mais ils sont passés sans me voir. Vous savez, quand hein, vous voulez pas voir quelqu'un, et de loin, vous commencez à fixer un point, et vous savez que la personne que vous voulez pas voir, elle est là, mais vous la regardez pas, et vous passez. Et effectivement, elle passe, et vous n'avez pas rencontré son regard, et on peut quand même supposer qu'elle vous a pas vu, puisqu'il n'y a pas eu ce moment où les regards se voient, et cela on ne peut plus. Quoi. C'est ce qui se passe avec nous. C'est pas que l'empreinte de Dieu n'était pas assez visible. Hein. C'est qu'on n'a pas envie de le rencontrer. Pourquoi ? Ben, on le sait, parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Hein. Qui de nous aimerait, Seigneur ne le fait pas, hein, que tout d'un coup, ses pensées, toutes, sans exception, soient projetées là, devant tout le monde. Là. Vous imaginez l'horreur ? C'est ça que j'ai dit à ma Seigneur, ne le fais pas, on ne sait jamais, hein, qu'il me fasse la farce à moi. Hein. On ne voudrait pas. Hein. Nous, on arrive à vivre notre petite saleté intérieure, nos machins, on s'arrange, on magouille un peu. De toute façon, je ne suis pas très bien, mais Pascal est pire, et puis David encore plus, et puis l'autre. Hein. Mais si d'un coup, c'est projeté dans la lumière, ah, c'est comme ces genres de cauchemars qu'on fait, où je ne sais pas s'il n'y a que moi. Hein, vous vous retrouvez tout nu dans une ville avec plein de gens habillés autour, il n'y a que vous qui n'êtes pas habillé. Hein, on voit qui vous êtes. La lumière est venue et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Naturellement, on n'a pas envie d'être dévoilé. On n'a pas envie qu'on sache qui on est. Et pourtant, heureusement, il y a quand même de l'espoir. Hein, certains, pourtant, l'ont accueilli. Comment, pourquoi, je ne sais pas trop, mais ça reste un mystère pour moi, mais certains pourtant l'ont accueilli et ils ont cru en lui. Et ça parle pas ici juste de penser qu'il existe, parce que hein, Jésus lui-même le dit, mais oui, les démons aussi croient en moi, ils savent que j'existe. Et puis les gens qui passent et qui veulent pas vous voir au bord là et qui regardent tout droit devant, ils savent que vous existez. Hein. Donc c'est pas juste croire qu'il existe, bah c'est un point de départ. Mais ils ont cru en lui, c'est-à-dire ils ont accepté de faire face à qui il est réellement. Ouais, il est né, un petit machin, un petit bébé dans une crèche, ouais, c'est une belle histoire, ouais, c'est un beau symbole, c'était un exemple, c'était un grand maître, c'était le premier des, ou c'était un parmi d'autres, ou... Non. Hein, il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie, il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est gênant, ça, à notre époque, ça fait vraiment... Il est assez intolérant, et il n'y a que lui, c'est bizarre comme discours. Mais pour ceux qui l'ont reconnu, pour ceux qui l'étaient, tous ceux qui... Mais oui, c'est sa main qu'il y a dans le coucher de soleil, c'est sa main qu'il y a dans cette partition de musique, c'est sa main qu'il y a dans la merveille du corps humain quand il fonctionne normalement, c'est sa main qu'il y a dans tous ces textes anciens qui nous parlent de lui. Ceux qui l'ont accueillis et qui ont reconnu qui il était, qui ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège, pas mérité, hein, mais c'est un privilège, c'est une grâce, de devenir enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait un petit peu attention, mais c'est quand la dernière fois ou quand vous avez entendu parler du christianisme, dans les médias, dans la rue, et même entre chrétiens, hein, mais l'expression qui était associée, c'était être né de Dieu et être enfant de Dieu. Et j'exclus, pour les plus âgés, la secte des enfants de Dieu, il y a une trentaine d'années. C'était autre chose. C'est vraiment pas la notion qui est là. Hein. Quand on dit christianisme, chrétienté, chrétien, à quoi on pense ? Ben, pour les gens les plus négatifs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'inquisition, les croisades... le jugement, la condamnation. Pour ceux qui sont un peu plus positifs, c'est être bon, être gentil, faire le bien, aider son prochain, aller à l'église, avoir une Bible, la lire le matin, aller à la réunion de prière, donner la dîme, s'engager pour servir Dieu, être missionnaire. etc. Or, toutes ces choses-là ne sont pas les caractéristiques de l'Évangile. Elles ne sont pas les caractéristiques du message chrétien. Ce n'est pas ça qu'on devrait célébrer à Noël. Et encore une fois, je n'ai rien contre la célébration culturelle. Je l'aime bien. C'est le fait que on a reconnu celui qui est à l'origine de l'univers dans lequel on vit, et qu'on l'a reconnu pour qui il était, et qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est pas magique, hein, mais il s'est passé quelque chose qui a fait que nous avons été greffés avec la vie de Dieu. Il y a des choses qui se sont rétablies, et puis on est devenu enfant de Dieu. On n'est pas une nouvelle personne dans le sens où notre personnalité est la même, notre corps reste le même, nos goûts restent les mêmes d'une certaine façon, mais on est en même temps devenu quelqu'un d'autre parce qu'on a été touché par une vie d'une qualité nouvelle. Et ça change tout. Et puis, avec ça, il y a plein de choses qui se passent. On a été réconcilié avec Dieu, on a été pardonné, on a été accepté, on a retrouvé le moyen d'être en communion, en communication, en connexion avec lui. C'est ça le message de l'Évangile. Tout le reste, c'est du décor. Ça pourrait changer, ça pourrait être autrement, ça pourrait être différent. Hein. Mon père, qui n'aime pas la viande, qui n'aime pas les légumes, il dit toujours, ce qui compte, c'est la viande. Mettez ce que vous voulez autour, c'est du décor. Hein. Mais, voilà, que vous mettiez des haricots, des petits pois, des châtaignes, des machins, de l'orange, il le pousse et il mange la viande. Le reste, c'est pour décorer. Hein. Ou pour les poules. C'est pareil pour nous. Ce qu'on essaie de voir là ce matin, c'est ça être chrétien, c'est ça l'Évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Se retrouver dans un bâtiment le dimanche matin à 10h30, avoir une Bible sous le bras, prier le matin ou pas, donner de l'argent, faire ci, faire ça, l'émission, le reste, le bazar, ça peut être des conséquences du fait qu'on est devenu enfant de Dieu ou pas. Ça peut se manifester autrement, différemment, selon les moments, selon les endroits, selon la culture. Mais est-ce qu'il y a l'essentiel? Est-ce que ça y est, ça? Est-ce qu'on a reconnu ce petit bébé qui est venu il y a 2000 ans comme celui qui est à l'origine de l'univers dans lequel on vit? Par son intention, par sa volonté, il a fait que ce monde existe. Ça m'intéresse pas vraiment, c'est intéressant, mais ça me passionne pas. Comment il a fait pour le faire, d'une façon ou d'une autre? Mais il l'a fait, ça j'en suis sûr. Et puis, il est venu nous rencontrer. Et puis j'espère, pour probablement la plupart ici, ou tout le monde, on l'a accueilli et on l'a reconnu. Et là, on est devenu enfant de Dieu. Et l'apôtre Jean, qui sait que c'est tellement pas une pensée facile à comprendre, continue en disant, ce n'est pas par une naissance naturelle, parce que c'est compliqué cette histoire, comme Nicodème, mais alors il faut que je rentre dans le ventre de ma mère pour ressortir. Non, non, c'est pas ça. C'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Littéralement, il a planté sa tente au milieu de nous. J'aime bien cette image. Enfin, c'est ce que veut dire le mot dans le texte, hein, mais c'est joli, je trouve. Il est venu planter sa tente chez nous. Il n'est pas venu pour s'installer là, rester là, et puis être un exemple, et puis devenir un grand maître, fonder une université où on enseignerait le christianisme. Comment s'habiller correctement, comment couper ses cheveux à la bonne longueur, comment écouter la bonne musique, comment être honnête, pas mettre les coudes sur la table, le doigt dans le nez, dire merci à la dame, et puis ça ferait des bons petits chrétiens. Non. Il était de passage, parce qu'il venait faire quelque chose de beaucoup plus grand, et puis il est reparti nous préparer une place. On comprend pas ça non plus. Ça nous dépasse. Comment, j'en sais rien. Mais c'est une réalité. C'est notre espérance, c'est le but. On est à l'école, on est en formation, on est en gestation, on est dans le ventre de la terre jusqu'à ce qu'on accouche d'une nouvelle vie, enfin qu'on naisse à une nouvelle vie réellement, mais là on est en formation, hein, en gestation, pour cette vie éternelle. Et il a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, Alors, c'est vrai que celui qui a écrit ça et quelques-uns de ses amis ont vu de leurs yeux, mais je pense, nous, on peut voir encore mieux qu'eux. Pas parce qu'on est meilleur, hein, parce qu'on a plus de recul. On voit de plus loin. Vous savez, quand vous observez quelque chose de très près, bon, déjà trop trop près, on louche, hein, mais on recule un peu, on le voit, mais si on veut bien le voir, il faut vraiment prendre du recul quand c'est quelque chose de grand. Et je dirais, on n'est pas défavorisé par rapport aux premiers croyants. Parce que quand on regarde en arrière, plus le temps passe et plus on peut voir, waouh, c'est immense ce que Dieu a fait. C'est immense. Parce que de la même façon qu'il y a ce faux christianisme, cette grande imposture avec ce soi-disant christianisme politique, économique, etc., qui est exactement la copie conforme de ce que la Bible appelle le monde, hein. On domine, on oppresse, on amasse pour soi, on s'impose par la force, ce gros mensonge. Mais il y a aussi, quand on regarde derrière, qui remonte jusqu'à Christ, cette lignée de témoins, ces vrais croyants, anonymes pour la plupart, discrets, inconnus, mais qui ont laissé une trace réelle en répandant l'amour de Dieu, la compassion, qui s'occupent des gens, qui vivent avec eux, qui vivaient dans la présence de Dieu et qui ont laissé, hein, comme la Voie lactée, vous savez, là, un chemin de lumière. On ne connaît pas leur nom, pas tous, ou même à beaucoup, mais il y a cette traînée qui remonte jusqu'à l'œuvre de Christ, sa naissance, l'incarnation, la croix. Et puis, c'est de ce message que nous sommes les porteurs. Et là, on arrive au point où j'ai décidé de vous faire travailler un petit peu. Je prépare mes vacances, il faut que je me repose déjà un peu. J'aimerais que vous puissiez réfléchir quelques minutes, peut-être à deux ou à trois, là, avec vos voisins. Je me suis posé la question, hein, je ne veux pas être le seul à me la poser. Enfin, je sais réfléchir un dimanche matin, c'est compliqué, hein, mais tant pis. Comment pouvons-nous, sans utiliser des formules creuses et incompréhensibles, sans être négatifs et culpabilisants, présenter le véritable sens de la venue de Jésus? Quelques pistes de réflexion là-dessus. Je répète la question. Comment pouvons-nous, sans utiliser de formule creuse, qu'est-ce que j'appelle formule creuse? Il te faut donner ta vie à Jésus. Aller dire ça à quelqu'un dans la rue, ça ne veut rien dire pour lui, s'il n'est pas déjà un vrai croyant. Donner ma vie à Jésus, c'est quoi cette histoire? Si, tu n'as qu'à l'accepter comme ton sauveur personnel. Merci. Mais c'est du chinois pour quelqu'un qui ne connaît pas le chinois, quoi. Donc, sans formule comme ça toute faite, hein, sans être négatif et culpabilisant, genre, ouais, Noël, c'est une horreur, c'est un truc commercial, mais en réalité, c'est une fête spirituelle. Bon, d'accord, mais ça me dit toujours pas ce que c'est, quoi. Donc, on veut pas ça non plus. Qu'est-ce qui nous reste? Comment on pourrait présenter ça? Je vous laisse quelques minutes, par deux, par trois, quatre, si vous voulez, mais on va pas déplacer les chaises, donc avec votre voisin de droite ou de gauche, réfléchissez un peu à ça. Hein, quelques pistes. Moi, je vous donnerai deux, trois pistes que c'est pas j'ai pas des solutions, hein. J'ai quelques petites idées, mais si vous en avez chacun une petite, ça va en faire beaucoup, quoi. Je vous laisse réfléchir. D'accord? Moi, j'ai pas trouvé mieux que vous, hein. Vous savez, c'est comme aux chiffres et aux lettres, pas mieux. J'avais noté le vivre, bien sûr. Donc là, quand je dis le vivre, c'était pas juste au niveau moral, être gentil, hein. Vivre cette nouvelle naissance. Vivre de la vie de Dieu tous les jours. J'ai pas de recette pour ça, mais voilà, c'est ce qu'on essaie de vivre, hein. Et je crois et je veux continuer de croire que ça se voit pas, mais ça se voit. Hein? Et bien sûr, à un moment, il faut aussi parler, mais s'il y a cette chose derrière, donc le vivre, la prière, qui est un des outils propres, puisque vu que le but, c'est d'amener à un niveau, passer du niveau moral au niveau spirituel, hein, parce que comme je disais, Noël, soit c'est mercantile et commercial, ok. Dans le meilleur des cas, c'est moral. Et ce qu'on aimerait, c'est que ça devienne spirituel. Les premiers sont pas forcément mauvais, quoi. Il faut que l'économie tourne, ok, on vend des trucs. Le niveau moral, il est bien, qu'on veuille la paix, qu'on se respecte, qu'on soit gentil. C'est super, ça permet dans une société de vivre correctement. Mais ce que nous, on voudrait amener, c'est le troisième étage, hein. Le niveau spirituel. Et donc, on est impuissant parce que c'est quelque chose qui se voit pas, qu'on peut, dans le meilleur des cas, vivre, Donc je pense que la prière, effectivement, serait un outil indispensable. Et puis j'avais rajouté faire preuve de créativité, mais ça c'était justement parce que je pensais vous demander des idées. Hein, on l'avait trouvé. Voilà. Mais c'était juste une réflexion importante et je pense pour nous aider à traverser ces fêtes en y mettant toujours plus de sens. Donner du sens, remplir de contenu. Et je crois que y a toujours, on peut soit rejeter les façons traditionnelles, donc vive Noël en disant, mais nous on fête pas Noël chez nous, rien du tout, c'est une fête commerciale, on le fait pas. Y a des chrétiens qui vivent ça comme ça, je respecte leur choix si c'est le leur, hein. Mais le défi que j'aimerais plutôt pour nous, ça serait comment on peut mettre dans ces formes qui existent, on les garde. Comment on peut y mettre un contenu qui a de la valeur, hein. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à l'Intermarché de Noël, c'est ce qu'on essaie de faire là, c'est ce qu'on va essayer de vivre aussi à la fête de Noël samedi prochain. Justement, on peut passer une super soirée ensemble sans être sous, sans dire des choses sales, sans, et en même temps être bien dans la présence de Dieu et s'aimer les uns les autres et s'accepter. Je pense que ce que j'ai pas noté, mais qui serait probablement la réponse la plus biblique à cette question, le moyen que Dieu a choisi pour révéler qui il est sur terre, c'est l'Église. Mais là, on a le même problème, c'est que si le premier c'était la grande imposture, là c'est la très grande imposture. Donc il faut trouver un autre nom, hein. Mais la réalité de l'Église, le corps de Christ, hein. Des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau et qui vivent ensemble. Quelque chose. Ben, par exemple, moi, je suis sûr que cette semaine, à l'hôpital, au service intensif, le personnel ont vu quelque chose. Quand je suis passé pour vous visiter, ça se voyait. Ils étaient surpris. C'est quoi tous ces gens qui viennent là, qui sont. Et vous savez, l'image que j'ai eue en pensant au corps de Christ et puis à Dora et à ce qui se passait, c'est que quand on se coupe, hein, quelque part, il y a tout le. Il y a tout qui vient là pour que ça cicatrise, hein. Et puis pendant un moment, ben, c'est concentré là-dessus parce que il faut que ça ne saigne pas trop, il faut que la croûte se passe, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait. Enfin, moi, je suis pas dans le domaine, hein, mais il y a des gens qui pourraient nous expliquer bien ce qui se passe. Mais c'est cette image que j'ai eue en pensant au corps de Christ. Alors, c'est dans un événement qui paraît jouissant, entre guillemets, mais qui témoigne de, parce que ben, voilà, les gens qui travaillaient là autour de ça et tout. Il y a quelque chose de particulier, quoi. Et ça va au-delà de juste une famille qui s'occupe d'eux. Il y avait d'autres personnes qui sont. Et c'est. Alors, on est loin d'être parfait dans ces choses-là. On le vit pas assez bien, pas assez souvent. Mais je crois que c'est aussi quelque chose que Dieu veut qu'on vive et ben, aussi dans ces moments-là. Alors, on va prier. Seigneur, merci pour ce moment ensemble. Merci parce que, comme on te l'a demandé au début de ce rassemblement, tu viens encore rajouter du poids dans des choses vides. Tu viens remplir de ta présence des formes qui n'ont pas de valeur sans ça. Tu viens nous stimuler dans nos réflexions, dans notre vie avec toi, pour que nous puissions grandir et réellement pas témoigner d'un système, d'une institution, mais du fait que nous sommes devenus tes enfants. Parce que tu as choisi de planter ta tente parmi nous et de donner ta vie pour nous, pour que nous puissions vivre, et vivre avec toi, et vivre de toi, et vivre pour toi. Merci pour ce moment et qu'il porte des fruits, qu'il se continue, qu'il se perpétue dans les heures, les journées, la semaine qui vient, Seigneur. Amen.